Merci d'être là, d'abord, à vous, dans ce bel endroit qu'est le château de Maintenon. Quelle bonne idée, ce salon du livre, pour la 18e édition du Légendaire. Et pour faire un petit clin d'œil à Alessandro Jodorowsky, qui était assis là il y a quelques minutes, dans le tarot de Marseille, la carte 18, c'est la carte de la Lune. Et la Lune, entre autres, ça signifie le mystère et l'imaginaire. Et ce salon du livre... Le thème de ce salon du livre, c'est donc patrimoine et imaginaire. Alors, je suis entourée à ma droite de Marie-Charlotte Delmas et à ma gauche de Loane Miège. Et Marie-Charlotte Delmas, patrimoine et imaginaire, c'est pile poil votre travail, avec ces deux dictionnaires sortis l'année dernière chez Omnibus, dictionnaire de la France merveilleuse et dictionnaire de la France mystérieuse. Donc c'est vous, Marie-Charlotte Delmas, quand je vous ai parlé de Pascal Folliot qui s'occupait de ce festival, de ce salon du livre à l'intérieur et de cette table ronde, et quand j'ai donc entendu ce thème de patrimoine et imaginaire, j'ai immédiatement pensé à vous et vous m'avez dit, et pourquoi pas les fées? Alors voilà, pourquoi les fées?
Quand on travaille sur le patrimoine, on va dire, sur le locaux, sur des lieux, donc sur des espaces particuliers du patrimoine, on tombe très très vite dans le légendaire sur les fées, qui sont des êtres topiques. Alors topiques, qu'est-ce que ça veut dire? Elles sont attachées à un lieu en particulier, que ce soit un menhir, un dolmen, une grotte, une fontaine, un arbre, un bois, que sais-je. Et ce sont vraiment les êtres surnaturels, bien bien avant les lutins, ce sont vraiment les êtres surnaturels qui sont les plus fréquemment cités dans les croyances populaires, telles qu'elles ont été collectées très massivement durant tout le 19e siècle.
Merci. Pierre Dubois, alors un grand merci à vous aussi, parce que donc, c'est le thème des fées, et c'est grâce à vous, Pierre Dubois, à votre présence, à votre charisme, à votre énergie, que bien avant Harry Potter, finalement, les fées sont arrivées dans le grand public. Maintenant, on commence à parler des fées, mais il y a quelques années, vraiment, il n'y avait que les zinzins, en fait, qui évoquaient les fées.
Oui.
Alors, comme Henri Gougou disait ce matin, avec beaucoup de gentillesse et de compassion, on ne les agressait pas, on pensait que c'était des doudingues. Et c'est vous, Pierre Dubois, qui avez apporté les fées, quand même, chez monsieur et madame tout le monde.
Mais c'est-à-dire que, oui, j'ai toujours été passionné par les contes, les fées. Moi, je suis né dans les Ardennes, donc un pays de fées, de féeries. D'ailleurs, c'est Julien Gracq qui situe le pays des fées vraiment dans les Ardennes. Il dit vraiment que lorsqu'on se promène dans les Ardennes, il y a un peu comme la Bretagne, mais là encore plus parce qu'il y a la forêt, il y a des endroits habités par les fées. On sent tout de suite que s'il y a un pays, c'est là qu'elles sont. Enfin, j'ai été un peu bercé par cette atmosphère. Et quand justement tu parles du lieu des fées, je crois effectivement, moi je crois réellement à l'influence d'un lieu de naissance. Et par contre, on ne me racontait pas d'histoire de fées. Mes parents n'étaient pas très sensibles à ça. Et justement, comme on ne m'en parlait pas, je les sentais encore davantage. Et j'étais fasciné par les fées.
Fasciné,
oui, absolument, façonné et fasciné par les fées. Et lorsque j'ai grandi, je me suis toujours intéressé à tous ces personnages, lutins, fées. Et je dois absolument tout ce que je suis devenu aux fées. Par un tas de hasards, mais il y a toujours une marraine fée qui m'a aidé quelque part. Il y a toujours eu ça. Et en grandissant, lorsque je me suis intéressé aussi à l'écriture, où j'avais envie d'écrire, de dessiner, je me suis tourné tout de suite vers les fées, d'autant qu'elles avaient disparu. Elles avaient disparu de la littérature, comme toute la littérature fantastique, le merveilleux. C'était quelque chose, le cinéma fantastique, on allait à minuit. Dans les séances, c'est vraiment comme le film porno, le film X, on se cachait pour aller voir aux séances de minuit les films fantastiques. Donc j'ai commencé à écrire sur les fées, mais aussi à aller voir des éditeurs qui me riaient au nez les fées, c'est pour les enfants. Les lutins, c'est pour les enfants. Les elfes, c'est pour les enfants. Ça ne les intéressait absolument pas. Et ce serait trop long pour expliquer comment les fées m'ont aidé. Mais il y a eu un bouquin de Brian Froud et Alan Lee qui est sorti chez Albin Michel, Les Fées, Fairies, et qui a eu quand même un certain succès.
En quelle année à peu près, ça ?
C'était les années, dans les années 70.
Donc Albin Michel, éditeur général. En
fait. Voilà, voilà. Et un autre bouquin d'un Hollandais qui s'appelait Les Gnomes. Et en plus, c'était une erreur parce que les gnomes sont des gnomes. Et le titre original, c'était Kabouters. Les Kabouters, qui est une race de nains hollandais. Et donc, j'en ai profité pour aller voir les éditeurs. Ah, ils se sont trompés. Moi, je vais vous donner les vrais lutins, les vrais nains, leurs noms et tout et tout. Et ainsi que les fées, les fairies. Brian Froud et Alan Lee, que j'ai rencontré plus tard, après, ne parlent que des fées britanniques, anglaises. Et moi, mais non, elles existent.
On revient au local qu'évoquait Marie-Charlotte, en fait.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et j'ai rencontré un illustrateur, Haussmann, René Haussmann, qui est un Belge qui avait dessiné Saki Zuni, qui faisait de la bande dessinée. Et il y a un gars que je connaissais qui, en fait, écrivait les Bob Moran à la place d'Henri Verne à partir du 100e numéro. C'est un autre qui écrit. Et il était devenu directeur de Spirou. C'était un copain. Et lui, il savait mon goût pour les fées, pour les lutins. Et il m'a proposé de faire quelque chose. Et on a fait le grand fabulaire du petit peuple, qui sortait comme ça dans Spirou. Et un éditeur, Webeck, Houbeke, Petit Ruisseau, a été intéressé. Et c'était à l'époque de Caro, Cabu, ton ex, un de ses ex, pardon.
Pas de commérage.
Non, j'ai pas de prononcé de nom. Comment il s'appelait encore ? Non. Et donc, il y avait un renouveau dans la BD, il se passait quelque chose. Et dans l'édition, dans les illustrations, et ce Webeck a dit, d'accord, on va faire les lutins. Et on a fait ce bouquin sur les lutins, ça a marché tout de suite. Mais il était lui-même sceptique en disant, bon non, ça a marché parce que c'était le moment de la Noël, c'est pour les enfants, etc. Et puis non, ça a continué.
J'ai apporté celui-là de Pierre Dubois et René Haussmann parce que je trouvais que c'était bien la saison. L'Elfeméride, le grand légendaire des saisons, automne-hiver. Il y a des tas de choses sur le mois d'octobre, sur les champignons, sur les châtaignes, en plus des personnages féeriques. Il est chez Webeck. Il y en a un sur le printemps aussi. Hein. Mais ouais. Voilà. Celui-là est très joli. En plus, il y a donc le premier sur le petit peuple.
Oui.
Ces deux-là, qui sont les Elfemérides. Quant à vous, Loan Miège, quand on vous regarde, on ne peut pas tellement douter de l'existence des fées. Vous en êtes une, il n'y a pas de doute. Alors vous avez écrit, Loan, chez Guitre et Daniel, à la rencontre des esprits de la nature. Et vous avez écrit ce livre qui est là. Vous l'avez décliné dans un livre un petit peu plus petit, accompagné d'un jeu de cartes dans un coffret. Et vient de sortir, tout frais, tout chaud, si frais, si chaud, que je ne sais même pas si d'ailleurs il est sorti du four. C'est une histoire de jour. Un conte qui s'appelle Le monde enchanté des esprits de la nature, qui est chez Guitre et Daniel aussi. En fait, c'est édition Exergue, hein, c'est la même maison. Et ça parle du plus précieux des joyaux. Qu'est-ce que c'est, Loan Miège, le plus précieux des joyaux ?
Le plus précieux des joyaux, finalement, c'est notre cœur, c'est cette énergie qui prend sa source à l'intérieur de nous et qui nous ramène à notre vérité, à notre authenticité. Parce que ce livre, donc, qui est un conte initiatique pour les enfants petits et grands, est une histoire de princesse. Une histoire de princesse qui... le lendemain de la nuit de noces, se rend compte que son prince a disparu. Alors d'abord, elle est très très triste, évidemment, hein, parce que c'est une catastrophe. Elle a attendu ce jour toute sa vie, et là, tout d'un coup, tout s'effondre. Elle va très mal. Et puis là, il y a une vieille dame qui arrive et qui lui dit « Mais moi, j'ai fait mon enquête dans la forêt. Votre prince n'a pas totalement disparu. Il a été subjugué et kidnappé par les fées dans son sommeil. » La vieille dame, avant de partir, lui laisse un bâton magique pour que cette princesse, qui s'appelle Mélodie, puisse se repérer dans la forêt, puisqu'elle ne connaît rien d'autre que son château et son jardin. Et heureusement, elle a un petit chien aussi qui l'accompagne, Mousqueton. Et donc, elle part comme ça, avec son petit chien et ce bâton, dans la forêt qui est si mystérieuse, si sombre, qui lui paraît finalement si étrangère. Et à travers son parcours, à travers cette quête vers cet homme, ce prince, cette idylle, eh bien c'est elle-même qu'elle va trouver.
Mais en elle-même, débarrassée de nos, un peu comme un oignon, de nos pelures qui peuvent être les tristesses, les colères, les angoisses, et qui ont fait place à une lumière, en fait. C'est un nous-mêmes qui n'est pas le nous-mêmes du CV pour être engagé ou le nous-mêmes de la séduction, qui est une forme de manœuvre quand même. C'est un nous-mêmes pur.
C'est ça. En fait, au fur et à mesure, elle se débarrasse de ses étiquettes, de ce qu'on lui a greffé dessus, notamment son statut de princesse, puisque son statut de princesse l'encombre plus qu'autre chose. Donc elle est obligée de le laisser. Je ne vous dis pas pourquoi, parce que ce sera la surprise dans le livre. Mais elle est obligée, en tout cas, de s'en séparer, et c'est même vital pour elle. Et donc, comme ça, au fur et à mesure, elle va lâcher et se rencontrer elle-même, se découvrir telle qu'elle est, et se rendre compte qu'à l'intérieur d'elle-même, elle a ce plus précieux des joyaux, ce son qui l'habite, cette essence, cette énergie qui lui permet, où qu'elle soit et quoi qu'il se passe, lorsqu'elle se plonge à l'intérieur, d'être bien, simplement bien.
C'est un petit peu ce que nous cherchons tous.
C'est ça.
Alors vous me ferez penser, Loane Miège, tout à l'heure, puisque nous sommes ici à maintenant, à une demi-heure même pas de Chartres, vous êtes allée hier à la cathédrale de Chartres, et nous avons parlé et de ce fameux labyrinthe, et du dragon que vous avez vu, mais pas un dragon et un poignard, un dragon et une espèce de câlin, on en reparlera tout à l'heure. Alors, puisque les fées sont dans un territoire, Marie-Charlotte Delmas, alors d'après Pierre Dubois, c'est le siège des fées, ce sont les Ardennes. Vous approuvez ou c'est du chauvinisme ?
Non, mais c'est vrai qu'on est dans une des plus vieilles forêts d'Europe, dans les Ardennes. Donc, effectivement, c'est un lieu qui est rempli de légendes. Après, des fées et des histoires de fées et de la croyance aux fées, parce qu'on ne fait pas que ce ne sont pas que des contes. Non seulement on y croit, mais en plus on pratique dans des lieux, on pratique certaines offrandes. Donc des fées, j'y reviendrai. Des fées, il y en a absolument partout. Sauf que tout dépend des collectages. Il y a des régions, des provinces, devrait-on dire, au XIXe siècle, qui ont été très, très bien collectées. C'est le cas de la Bretagne. C'est le cas des Ardennes avec Albert Mérac, qui a quand même fait un gros boulot. C'est le cas d'autres provinces, de la Normandie, etc. Et puis, il y a des lieux, particulièrement dans le midi de la France, qui ont été beaucoup moins bien collectés, et d'autres lieux, pas du tout, qui ont dû attendre le XXe siècle, avec Claude Seignolle sur une partie du Languedoc, sur l'île de France, et en tout cas le Hurepoix, voilà, qui n'avait pas été collecté et tout ça. Donc, on se rend compte que dans les provinces où il y a eu beaucoup de collectages, on a un certain nombre de gestes, de faits, de traditions, etc., de façon très, très complète. Et dans d'autres lieux, on a très peu de choses. Mais ce peu ressemble vraiment à un bout du beaucoup. Et on a, par exemple, en Bretagne, ce qu'on me demande toujours, surtout dans les revues bretonnes, quand on m'interview, vous me dites, mais alors la Bretagne, il y en a plus que... Ben, je dis non, pas plus. Il y a en Bretagne une race de fées, si l'on peut dire, une famille de fées qui s'appelle les Margolafées, qui sont sur les Côtes d'Armor. Et elles ont une geste très particulière avec... Elles se font accoucher, par exemple, ce qui est très rare chez les fées. Elles se font accoucher par des femmes, par des sages-femmes humaines. Elles font des cadeaux, ce qui est très rare aussi dans la geste des fées, aux humains, des pains qui ne diminuent pas, même si on les mange, des quenouilles où on peut tirer du fil de façon continue sans que... Voilà. Et donc, elles se marient, elles ont des fœtaux, des enfants. Alors, on ne sait pas grand-chose sur eux ni sur les hommes, mais on sait qu'ils sont là. Et en fait, on se rend compte, parce qu'il y a eu un collectage fait par un monsieur qui s'appelle Jean-François Cercan au Pays Basque, et on se rend compte qu'il y a une race d'êtres surnaturels que moi, je place dans les fées, qui sont les Laminaques, pluriel de Lamina. Et ces Laminaques, ils ont exactement la même geste que ces fées des Côtes d'Armor. Donc, on peut en déduire sans toutefois en avoir la preuve, hein, mais on peut en déduire que effectivement, si des mémoires s'étaient conservées, comme dans ces pays où la langue est un élément tellement fort qu'elle conserve la tradition, c'est le cas au Pays Basque, c'est le cas en Bretagne, en Haute-Bretagne en particulier, et là c'est bien de la Haute-Bretagne dont il s'agit, eh bien c'est tellement fort que voilà, on a un corpus de légendes sur les faits, très très fort, mais qui probablement c'était le même ailleurs, puisque les faits, on a cessé d'y croire dans les campagnes aux environs de, je dirais, allez, fin du XVIIe, mi-XVIIIe siècle.
Il y a quand même beaucoup de lieux. Il suffit de feuilleter votre livre. Des roches aux fées, il y en a. Mais...
Alors, il y a des roches aux fées, des fontaines aux fées. Alors, évidemment, le processus de christianisation a été très long en France. Et on se rend compte jusqu'au IXe siècle, dans les canons de concile ou dans quelques textes de synode qui étaient les réunions des évêques, on a des injonctions pour que les évêques aillent dans les paroisses dire au curé de dire aux paroissiens qu'il ne faut plus aller vénérer les pierres sacrées, les arbres sacrés et les eaux sacrées. Et donc, dans ce même processus de christianisation, on va donner des noms de saints, des noms de saintes, la plupart du temps, là où on a des fées. Donc, les fontaines aux fées vont devenir la fontaine sainte machine, sainte truc, enfin, voilà, des noms de saintes. Et des fois, les habitants sont tellement accrochés, non seulement au nom, mais à la tradition qu'il y a derrière, à la fée qu'il y a derrière, c'est-à-dire à l'avatar de divinité que représente la fée, divinité antique jadis, qu'ils n'y arrivent pas, et donc la fontaine garde les deux noms. Et un cas typique, anecdotique, c'est cette fameuse fontaine à Don Rémy, près de laquelle Jeanne d'Arc va entendre des voix, qui est près d'un arbre aux fées, où se déroulaient des rituels tous les ans, et qui s'appelle la bonne fontaine aux fées Notre Seigneur.
C'est magnifique. C'est un arrangement. Donc, en fait, quand on se demandait un petit peu pourquoi les fées avaient disparu, pas complètement, parce que sinon vous ne seriez pas là tous les trois, c'est donc l'Église qui les a, avec une énergie féroce, balayées.
C'était des démons. C'était des démons. Et quand on arrive, pendant le Moyen-Âge, les fées vont passer dans le roman. Le terme fée vient en fait d'un adjectif. On est faé. Et on est faé, on est enchanté. Et de ce terme faé va être tiré le nom de fée qu'on retrouve dans les différentes régions, dans les patois locaux, fada, ada, etc. Bon. Et je ne sais plus ce que je voulais dire.
Fada, ça vient de fée ?
Oui.
D'accord.
Et donc,
pas normal.
On parlait de... Je ne sais plus, là, je suis partie ailleurs.
Je vous disais que c'est l'Église qui
ah oui, voilà.
Est acharnée à dégager les faits
voilà.
Du,
et donc,
du paysage.
Quand on arrive au XVIe siècle, il faut se dire qu'on vient de vivre plusieurs siècles de famine et de maladie, puisqu'on est dans ce que les géographes appellent la petite ère glaciaire. Donc il s'est mis à faire tellement froid pendant plusieurs siècles qu'on n'a plus rien à manger et que les maladies prolifèrent. Et donc il va falloir trouver des coupables. Et les coupables, eh bien, ils sont tout trouvés, facilement trouvés par l'Église. Les coupables, c'est le diable, et ce sont les sorciers et les sorcières qui sont à la solde du diable. Et à partir de là, on va commencer à avoir de plus en plus de livres de démonologues, c'est-à-dire de ces gens qui sont les juges, qui ne sont pas des inquisiteurs, puisque ce ne sont pas des religieux. L'inquisition, elle est finie depuis un moment en France. Donc ce sont des juges civils, et ces juges civils vont avoir à juger ces sorciers, ces sorcières, les envoyer sur le bûcher, 120 000 en France quand même, à une époque où la démographie n'est pas terrible. Et du coup, on va trouver dans leurs livres le lien à ces lutins et à ces fées qu'ils traitent de démons et de démones. L'air est parsemé de démons, il y a des démons de l'air, de la terre, machin, ça on le savait depuis le Xe siècle avec les premiers démonologues. Mais là, on va faire rentrer dans ces démons les fées, alors que jusque-là, seuls les lutins y étaient. Parce qu'en fait, on a vraiment deux domaines. Les lutins sont des démons, les fées sont des avatars de divinité. Ils n'ont ni la même geste, ni les mêmes fonctions, ni les mêmes... Voilà. Et donc, elles sont devenues des diablesses. Voilà.
J'ai l'impression, en vous écoutant, Marie-Charlotte Delmas, que finalement, dans ce peuple de la nature, dans ce peuple de l'invisible, dans ce peuple mystérieux, il y a du monde. Et Pierre Dubois, vous dites que vous êtes elfologue. Alors, pour nous, enfin, pour moi, en tout cas, profane, alors, il y a les fées, il y a les lutins, alors, les elfes. Les... Ça devient compliqué, cette population.
Oui, tout à fait. Mais disons qu'il y a les esprits de l'air, les esprits de des bois, les esprits de chaque matière, chaque élément a ses esprits, les esprits de l'eau, les esprits de l'air. Donc ils sont là, quoi, dedans, et ils protègent. Mais disons que c'était aussi une espèce de ils protègent la nature, mais disons que c'était aussi une espèce de moi j'appelle ça l'écologie de l'âme. C'était quelque chose de il y avait une harmonie. Souvent on dit il était une fois lorsque les bêtes parlaient. Elle parlait certainement pas, mais on parlait quand même une forme de même langage. Il y avait une harmonie, quelque part, il y avait entre l'homme et la nature. Et ces petits personnages, ces elfes, ces esprits, ces lutins, ces fées, étaient des personnages qui représentaient aussi ce qu'il y avait de bon dans la nature, mais aussi de menaçant. Donc il fallait s'allier tous ces petits dieux, tous ces esprits de la nature, et écoutez bien leurs préceptes. Par exemple, si on détruit les arbres, on va tuer aussi toute la faune fantastique des arbres, et ils nous empoisonneront. Si on jette des immondices dans l'eau, pareil, on empoisonne l'eau, mais on va tuer aussi les ondines, les sirènes, tous ces personnages, les draques, tous ces personnages de l'onde. Par exemple, le lutin va, les lutins domestiques vont aider un paysan, vont l'aider, va lui donner du blé, par exemple, lui dit attention, je te donne du blé, mais il faut toujours laisser un petit coin au bout du champ pour que les fées puissent venir y danser. C'était une manière écologique de laisser quelque chose. Là, un coin en friche permettait aussi les oiseaux de pouvoir vivre et se nourrir. Mais attention, parce que si tu détruis tout ça, gerbe par gerbe, non, épi par épi, je t'ai enrichi, mais gerbe par gerbe, je te ruinerai. Donc attention, ne va pas plus loin. Maintenant, le maïs transgénique et tout ça, évidemment, on a un petit peu dépassé les bornes là.
Justement, on a dépassé les bornes. Alors quelles sont les réactions des êtres de la nature
Les inondations, les inondations, les avalanches, la pollution. En fait, c'était déjà nous avertir, attention, il y aura une pollution. Et on continue à le faire. On a perdu ce langage, justement, des anciens. C'est un peu ça, l'éphéméride. C'est que l'éphéméride, la nature, nos ancêtres, donner une explication fantastique, merveilleuse à tout ce qu'ils ne comprenaient pas, quelque part. L'arc-en-ciel devenait la jarretière de la Vierge, ou un pont, une passerelle pour que les âmes puissent aller de l'autre côté. Un oiseau, par exemple, qui s'en allait, l'hirondelle, ils avaient observé que l'hirondelle s'en allait dès qu'il commençait à faire mauvais, elle partait, et par contre, donc, le ciel leur tombait sur la tête. C'est-à-dire que c'était un hiver, c'était une nuit perpétuelle, ils avaient froid, ils avaient faim, là, la famine arrivait. C'est eux qui devenaient gibier. Donc, ils se rassemblaient autour du feu, ils se racontaient des histoires, une manière d'exorciser leur peur. Et là, par exemple, cet oiseau, il y avait un oiseau qui revenait, et cet oiseau, il l'observait, et les beaux jours revenaient. Et c'était l'hirondelle. Donc, comme l'hiver est en général personnifié par une sorcière, la mère Gagache ou tout ce qu'on veut, etc., qui, avec son souffle, tue la nature avec ses ongles d'acier et tout, tue tout ce qui bouge, qu'on retrouve d'ailleurs dans Blanche-Neige, qu'on retrouve avec la nature présentée par une jeune fée, une jeune fille qui va non pas mourir, mais s'endormir et va être réveillée par le beau prince alors que la sorcière a voulu la tuer, l'hiver a voulu la tuer.
Ah oui, donc quand elle dort, c'est un petit peu comme la nature.
Voilà, c'est ça.
La nature qui est en dormance pendant tout l'hiver.
Voilà, c'est ça. Et donc cet oiseau revenait, et donc l'hirondelle ramenait le printemps. Et comme il l'avait observé, c'est vrai que l'hirondelle a son poitrail roussi. Donc, il dit, mais effectivement, elle a été chercher un tison, le tison du soleil, dans le soleil. Elle le ramène sur la terre, mais la sorcière veut l'empêcher. On voit un dragon. Et c'est pour ça que l'hirondelle vole en faisant des zigzags, parce qu'il essaie d'éviter ce dragon que nous, on ne voit pas. Et qu'en tenant ce petit tison, cette étincelle de feu dans le bec, il s'est roussi de plastron. Et un jour, un dragon a réussi à l'attraper par la queue. Elle a donné un coup de rein, elle a réussi à s'échapper. Mais elle a laissé sa plume du milieu entre les incisives de la bête et l'hirondelle à la queue fourchue. Donc pour tous les oiseaux, pour tous les animaux, pour toutes les plantes, il y a une, deux, trois, quatre légendes autour où les anciens racontaient des histoires. C'était une manière aussi de voir l'animal, de donner une... Pastoureau parlait de l'ours, pareil, toute la symbolique de l'animal, tout ce que nous raconte l'animal, tout ce que nous racontent les plantes, tout était magique. Tout était magique et il ne fallait justement pas abîmer ce qui était magique, sinon on allait recevoir un coup de fouet en retour, quoi. Et cette harmonie est extrêmement forte et en même temps friable. Si on ne respecte pas, tout peut devenir négatif.
Noël Miège, cette harmonie entre les esprits de la nature et les humains, vous en avez fait un livre. Et vous nous apprenez à les rencontrer, à les reconnaître et à échanger. Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Qu'est-ce qu'on leur apporte?
Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Énormément de choses, en fait. C'est-à-dire que c'est pas uniquement aller rencontrer quelqu'un comme on rencontrerait quelqu'un dans la rue, bonjour, et ça s'arrête là. Ces êtres... déjà sont sur une autre dimension, hein, pour dire une dimension parallèle qui est invisible. Ils ont un accès à des espaces qui nous échappent, nous qui sommes dans la matière. Donc ils peuvent nous donner une vue assez élargie des choses, donc des leçons de vie, mais aussi des perspectives dans notre façon d'évoluer. En fait, ces êtres, ils demandent qu'une seule chose, c'est de renouer avec nous. Pendant tous ces siècles d'obscurantisme, si l'on peut dire, hein, que ce soit avec la christianisation ou l'industrialisation, parce que l'industrialisation a énormément aussi joué dans la séparation, puisque l'homme s'est énormément attaché à la matière et donc s'est détaché du subtil, hein, quel qu'il soit, eh bien, aujourd'hui, il demande qu'une seule chose, c'est qu'on puisse retrouver, renouer des liens et co-créer ensemble. Et on voit très bien que ça marche. Peut-être que certains d'entre vous connaissent la communauté de Findorn en Écosse. Donc, qui se trouve vers Inverness.
Ils ont réussi à faire pousser des légumes sur des cailloux.
Ah oui, en fait, c'est donc un couple, hein, Peter Cady et Hélène Cady, peut-être que certains connaissent le livre La Petite Voix, et donc leur amie Dorothy, qui se sont retrouvés avec rien sur une plage donc, du côté d'Inverness, en Écosse, avec donc, un climat difficile. Et ils se sont dit, mince, il faut qu'on mange. Comment on va faire? Nous n'avons pas les moyens de nourrir. Mais nous allons faire pousser des légumes. Logique. Dans le sable, beaucoup plus compliqué. Donc, Peter a filé à la bibliothèque. Quant à Hélène et Dorothy, elles se sont mises en connexion avec ces esprits de la nature. Et ces esprits leur ont montré comment faire. Ils leur ont donné le mode d'emploi. Et du coup, incroyablement, ils se sont retrouvés avec des légumes géants. Tellement géants que beaucoup ont cru à une supercherie. Des scientifiques sont venus du monde entier faire des prélèvements. Et les résultats des analyses ont été étonnants puisque le sol était parfaitement équilibré. Et cette communauté aujourd'hui est de 350 personnes. Donc l'harmonie avec...
Il y a manqué d'eux, hein, quand ils ont commencé.
Oui.
C'est vraiment, c'est des babas timbrés, quoi.
Ouais. Oui, et puis quand les résultats sont arrivés, les résultats scientifiques, là, il a bien fallu regarder les choses autrement. Et aujourd'hui, c'est une communauté qui existe, qui continue à évoluer et qui a donc comme fondation la communication et je dirais la relation en harmonie avec les esprits de la nature. Donc comme quoi c'est tout à fait possible, ils nous montrent l'exemple. Et cet exemple, nous pouvons l'avoir partout, hein, que ce soit dans un jardin si vous en avez un, mais aussi en vous baladant en forêt, auprès de la mer, partout où la nature est un petit peu préservée. Parce que le problème, c'est que les esprits de la nature, évidemment, n'apprécient pas trop les pesticides. Et là où la chimie et la dénaturalisation se propagent.
Donc, sont-ils menacés?
Aujourd'hui, ils sont menacés. Et pour tout vous dire, en plus donc, de cette chimie qui les perturbe, le gros problème, ce sont les antennes de téléphonie. parce que ces antennes émettent des vibrations qui sont contre nature, donc contre la vie, au point de les perturber, voire même de les désagréger. Donc dans certaines régions, il y a des esprits de la nature qui disparaissent, qui préfèrent partir tellement ça devient insupportable, tellement leur territoire ne leur permet plus de vivre correctement.
Alors Marie-Charlotte nous disait, Marie-Charlotte Delmas, nous disait que ces êtres étaient attachés à un territoire. Ça ne doit pas être facile pour eux de changer de territoire.
Alors, soit ils sont accueillis par des êtres de la nature, on va dire de même espèce. Il peut y avoir comme ça des formes de migration. Soit ils décident carrément de repartir à leur source, donc sur un autre plan.
De là d'où ils
viennent. Ils quittent le plan terrestre, exactement. Ce qui pose de grosses questions pour nous, parce que comment pourrait continuer à fonctionner le monde sans eux. Nous avons besoin d'eux. C'est-à-dire que ces esprits de la nature, ils ne sont pas là uniquement pour peupler les contes, les légendes. Ils peuplent avant tout la Terre.
Alors justement, vous parlez de la Terre et des contes et légendes. Il y a quand même quelque chose d'assez étonnant. Là, ici, ce sont des livres pour adultes, pas difficiles, mais enfin sérieux, on va dire. Mais comment se fait-il que cycliquement, en passant par les enfants, mais malgré tout, en passant par les enfants, on arrive aux adultes. Ces histoires de fées et d'êtres de la nature arrivent. Il y a eu la grosse vague Walt Disney qui continue. Il y a eu la vague Harry Potter qui est arrivée quand même comme ça. Et quand on lit Harry Potter, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont certainement assez impressionnantes pour vous. Donc, ce qui voudrait dire qu'ils se débrouillent quand même. Ils se débrouillent comme d'une façon ou d'une autre, encore une fois en passant par les enfants, mais il y a beaucoup d'adultes qui lisent Harry Potter. Ils se débrouillent quand même pour arriver jusqu'à nous.
Je crois qu'il y a deux choses.
Nous débrouillons pour arriver jusqu'à eux, je crois.
Il y a à la fois les passerelles qui tendent, parce qu'en effet, ils nous envoient un message qui est clair, c'est prenez-nous en compte, considérez-nous.
Et ils sont on existe.
Et on existe, hein, il est temps quand même que vous vous en souveniez. Et puis, je crois qu'il y a tout simplement la nature humaine. Ah. La nature humaine a besoin d'enchantement. Comment vivre sans enchantement ? Comment vivre dans un monde terne ? C'est juste insupportable. Nous en avons besoin. Et finalement, en allant vers cette part de merveilleux, vers ces esprits de la nature, nous allons aussi à la rencontre de notre propre part de merveilleux. Nous allons à la rencontre de nos propres capacités qui dépassent souvent largement de ce qu'on imagine sur nous-mêmes. Et c'est ça qui est extraordinaire.
Marie-Charlotte Delmas, c'est ça que vous avez voulu dire en disant...
Non, je pense qu'effectivement, nous avons besoin de merveilleux. Et quand une civilisation avance dans le progrès et rétrécit l'inconnu, et aujourd'hui, l'inconnu est de plus en plus menu. C'est l'univers ou les abysses qu'on ne connaît pas bien encore. Mais maintenant, le monde est balisé, il y a des satellites partout. Et donc, moins il y a d'inconnus, plus on a besoin de mystères. Comme si c'était un phénomène anthropologique qui révèle notre humanité.
On fait des scanners et des IRM. Donc, on connaît le corps dans tous les sens. On a des images de l'intérieur, mais plus on connaît...
Et plus on a besoin de mystères. C'est ce qui fait que, par exemple, malgré le progrès, malgré les civilisations avancées, la superstition est toujours présente. Parce que la superstition, je jette une pièce dans l'eau, je ramasse un trèfle à quatre feuilles, machin, n'a pas besoin d'être expliquée. Et le fait qu'elle ne soit pas expliquée fait qu'elle garde une part de mystère. Et c'est justement ce mystère dont on a besoin. Ce sont ces choses auxquelles on ne croit pas, mais on ne sait jamais.
Ça me fait penser à l'histoire d'Einstein, voilà, qui fait visiter sa maison de campagne à quelques-uns de ses copains scientifiques. Et ils arrivent devant la maison de campagne et il y a un fer à cheval devant la porte. Alors les deux, trois scientifiques, les potes d'Einstein qui étaient là, lui disent « Non, mais c'est pas vrai, toi, Einstein, tu crois à ça ?» en montrant le fer à cheval. Et Einstein dit non, j'y crois pas du tout, mais ça marche même quand on n'y croit pas.
Voilà. C'est exactement ça. Et très belle, très belle histoire, et c'est exactement ça.
Et c'est peut-être ce qui expliquerait finalement Pierre Dubois, et puis après, ça sera... Pierre va conclure, et puis après, vous pourrez poser vos questions, puis on va vous libérer. C'est peut-être ce qui expliquerait que Pierre, petit garçon, dont les parents n'étaient pas spécialement branchés fées, a été appelé, alors bon, il y avait la terre des Ardennes, les racines des arbres.
Mais ça, je pense, c'est l'enfant, justement, a la pensée magique. l'enfant a une pensée magique, il a ses rituels, il y a tout ça. Et surtout un enfant solitaire, comme ça, un enfant que j'étais. J'étais et c'est très important. Moi, j'étais dans une cuisine, arrière-cuisine. Je me souviens de cette arrière-cuisine qu'on appelle en plus une buanderie. J'adore le mot buanderie, oui, avec la buée. Ouais, j'entendais le bruit de la pluie, la bouilloire. Et Bachelard a une phrase que moi je trouve formidable. Il dit « Les petits êtres fuyants et cachés oublient de fuir lorsqu'on les appelle par leur vrai nom ». Donc le fait de connaître leur vrai nom, de faire alliance avec ces petits personnages qu'on sent, qu'on ressent, tout de suite, on a des compagnons secrets, on est protégé. Et c'est très important, toute cette pensée magique permet de nous protéger. Et lorsque la société, justement, ne croit plus en rien quelque part, c'est bon qu'il y ait ce retour. Moi, je pense toujours à cette histoire de ces deux enfants qui jouent dans un loch écossais. Et on est donc à l'époque victorienne où c'est vraiment on déserte les campagnes pour aller devenir des ouvriers dans un Londres complètement un pandémonium, comme on dit. Donc c'est un enfer et tous les enfants vont travailler comme Dickens dans les usines à cirage. On fait c'est assez affreux, etc. Et il y a deux enfants donc qui jouent dans un quelque part en Écosse, et leur maman leur raconte des Penny Dreadful avec des pirates, avec des Indiens, avec des fées, avec des sirènes. Et un jour, un des deux, en glissant, se tue. Et donc, c'est le grand frère qui meurt, et le petit frère reste prostré, d'autant que sa maman ne lui raconte plus d'histoire. Et c'est pour lui une petite mort, quelque part. Et il va imiter son grand frère. Son grand frère, il va prendre l'attitude de son grand frère, il va mettre les vêtements de son grand frère, et arriver à l'âge où le grand frère s'est tué, parce que sa mère ne lui raconte plus l'histoire, mais en plus s'est prostré dans sa chambre, elle ne sort plus pratiquement. Là, il arrive et elle voit sa silhouette, et elle lui dit « c'est toi ?» Et il dit « non, ce n'est que moi ». Et en fait, ce petit garçon s'appelle Mathieu Barize, et il va écrire Peter Pan, l'histoire d'un enfant abandonné par sa mère, et qui va retrouver justement ses fées, ses elfes, et dans une île enchantée où il y a des Indiens, des pirates, des fées, des sirènes, etc. Et donc ce Barry raconte cette histoire où là, justement, le capitaine Crochet est un Peter Pan qui, hélas, est devenu adulte et qui a été déjà dévoré à moitié par le crocodile qui fait tic-tac, le temps, tic-tic-tac. Et qui est derrière lui à toujours le poursuivre et à vouloir le dévorer, et qui a déjà bouffé la main, et il ne sait plus voler, lui ne sait plus voler. Et donc, à la première de Peter Pan, devant la gentry victorienne coincée, qui sont là, les affairistes et tout, là, c'est aussi l'apprenti sorcière, là, ce film où on voit tous les banquiers et tout, a une idée, c'est que Clochette, Tinkerbell, la petite fée, va prendre pour sauver Peter Pan une potion qu'elle va boire, c'est du poison. Et elle tombe sur scène. Enfin, d'abord, elle commence à tintinabuler de plus en plus mélancoliquement. Elle tombe et sa petite lumière tombe. Et Peter Pan la prend dans les mains, se tourne vers l'assemblée et dit « Chaque fois qu'une fée est blessée comme ça, si on ne croit plus en elle, si les enfants ne croient plus aux fées, si vous ne croyez plus aux fées, eh bien, c'est une fée qui meurt. Si vous voulez qu'elle vive, qu'elle résiste, dites « J'y crois ». Et là, il y a un grand silence, et brusquement, on entend une voix qui dit « J'y crois ». Et on commence à applaudir, à taper du pied, etc. Et là, il y a tout le théâtre qui va résonner comme un appel de tout un monde qui se réveille, un monde endormi derrière leur coffre-fort, et qui, là, vont retrouver leur enfance. Et c'est là où il y aura justement un renouveau de la féerie avec tous les pré-raphaélites, avec tous les écrivains de l'époque où il y a les plus belles choses qui vont être écrites à ce moment-là. Et je pense qu'en ce moment, c'est un peu ça aussi, c'est qu'on est arrivé à ne plus croire à une société qui nous trahit, lorsqu'on entend un homme politique, je l'ai entendu, interviewé, et on lui pose une question sur tous les scandales, etc., qui se passe, tout le blanchiment, le tout comme ça, et il se tourne vers la caméra et il dit... mais enfin, qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est-à-dire nous, les connards. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils voudraient peut-être qu'on soit des chevaliers. Et pourquoi pas des chevaliers blancs tant qu'on y est ? Et pourquoi pas des bénévoles ? Mais c'est monstrueux. S'ils ne veulent plus être des chevaliers alors que là, ils sont élus pour être des chevaliers, chevaliers rouges, ou chevaliers verts, ou chevaliers noirs, ou chevaliers blancs, s'ils refusent ça, il faut bien qu'on trouve qu'il y ait des Robin des Bois. Et Robin des Bois, ne l'oublions pas, c'est Robin Hood, c'est pas Robin Wood, c'est le capuchon, c'est-à-dire le lutin, l'esprit, le fils de Pan, c'est l'esprit de la forêt qui se révolte. Et je pense que là, justement, c'est Harry Potter, c'est pas pour rien si c'est un enfant aussi qui veut retourner à l'école des sorciers. Il en a marre d'une certaine école, il veut aller à l'école des sorciers, il veut à nouveau voler.
Peut-être une petite chose, Loane, dans votre livre, à la rencontre des esprits de la nature, ici on n'est pas très loin de Paris, on est près de Chartres, vous parlez des gargouilles dans les cathédrales, donc ce qui voudrait dire qu'il y a quand même des choses intéressantes aussi en ville. Et puis juste une chose que vous avez dit sur le... En deux mots, parce qu'il est un petit peu tard, ce que vous avez dit sur le... J'ai trouvé ça intéressant, sur ce fameux labyrinthe de Chartres, sa fonction.
Ah, sur le labyrinthe en lui-même ?
Oui, parce que dans le labyrinthe...
Alors, hier, j'ai essayé le labyrinthe de Chartres, c'est la première fois, et c'est vrai que c'était un peu la question, finalement, qu'est-ce que ce labyrinthe ? Alors, je vous donne ma version qui m'appartient, mais bon, à vous aussi d'essayer, et puis de voir comment ça agit sur vous. Ce que je trouvais très intéressant, en fait, c'est que dans ce labyrinthe, nous commençons par aller dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc qui est le sens de la décharge, donc on se vide, on se nettoie, et ensuite, paf, on passe dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens de la charge. Et en fait, c'est tout un trajet qui va de la décharge à la charge, décharge, charge. Donc avec une idée de nettoyage, remplissage, nettoyage, etc. Comme si finalement ce labyrinthe était un médicament et qu'il allait progressivement nous nettoyer donc de ce dont nous n'avons plus besoin pour nous recharger de lumière, puisque nous sommes comme dans une cathédrale, nous sommes dans le sacré, et tout ce que ça peut nous apporter, c'est véritablement une belle énergie pour nous habiter et pour nous permettre d'évoluer sur notre chemin, pour arriver à la fin avec ces 6 pétales qui sont un petit peu comme ces 6 espaces, qu'on pourra aussi appeler chakras, qui s'harmonisent au fur et à mesure, et finir avec le pétale central qui est l'unité, donc l'harmonie totale. Donc c'était assez intéressant de vivre cette expérience. Aussi, autre chose, en sortant donc par la porte, je crois qu'elle est au nord de la cathédrale de Chartres, j'ai été émue par une des sculptures sur le fronton qui représentait un être humain avec un dragon, mais cette fois-ci sans épée, sans cette espèce d'agressivité, si on peut appeler ça comme ça, non, avec une main tendre. C'est-à-dire que cet être humain enlaçait le dragon. Et là, je trouve que c'est une image extraordinaire parce que cela sous-entend que nos ancêtres communiquaient déjà avec les esprits de la nature, étaient capables d'avoir une belle relation avec eux, au point d'avoir envie de nous le transmettre. Parce qu'il faut aussi faire la sculpture, ça demande du travail, c'est une intention de transmission. Donc ils ont voulu aussi nous transmettre que cette relation avec l'invisible est possible et bénéfique, puisqu'on se retrouve quand même dans une cathédrale.
Oh, je vais un tout petit peu casser ça, pardon.
C'est pas grave.
C'est que ce qu'on appelle les saints sauroctones, et Dieu sait s'il y en a, sont les saints chasseurs de dragons. C'est-à-dire qu'en fait, quand le christianisme s'implante, il faut absolument que les nouveaux héros, qui sont les saints, les évêques, etc., et à leur catalogue, des faits héroïques. Or, tous ces gens sont païens, eux aussi. Les futurs chrétiens seront païens, puisque notre beau pays, quand même, a des racines profondément païennes, quoi qu'on en dise. Et donc, du coup, ces saints vont se mettre à, comme les héros de l'Antiquité, à chasser des dragons. Et on a énormément, au XIIe siècle, dans le livre de Jacques de Voragine sur la vie de tous les saints, etc. Et on a énormément de ces saints sauroctones qui sont des chasseurs de dragons. Sauf que, au lieu d'être armés, ils n'y vont qu'avec l'arme de la religion. Et ils entourent les dragons, soit avec leurs mains, soit avec leur étole, soit ils font une croix sur le dos du dragon, parce qu'ils n'ont pas besoin d'armes pour vaincre le dragon. Le dragon, c'est le diable dans tous les livres de théologie. C'est pour ça qu'il est sur les cathédrales. Il est dompté par l'Église, qui le montre bien, d'où les gargouilles, etc., qui sont des démons domptés par l'Église. Et donc, on dompte le dragon, on ne le combat pas, et le dragon se met au service. Le diable met un genou à terre devant Dieu. Voilà, c'est pour ça que tu as cet humain qui n'a pas de... Voilà.
Alors, Loane parle des gargouilles en disant... Je fais un résumé parce qu'on pourrait y passer.
Moi, j'ai plus un regard, en fait, par rapport à la...
La terre et le ciel.
Terre et le ciel, et puis par rapport à la connaissance des bâtisseurs, qui est une connaissance ésotérique, qui est peut-être un petit peu différente de ce que veut transmettre le catholicisme, puisque finalement, à travers ces cathédrales, il n'y a pas que ce message... Oui, mais la chrétienté, elle a évolué au cours du temps. Elle a énormément évolué. D'ailleurs, le message du Christ et le message du catholicisme, il y a quand même un gouffre. Et donc, le message des bâtisseurs est souvent bien différent, et la symbolique aussi. Il n'y a qu'à étudier, d'ailleurs, ces cathédrales, ces églises et ces chapelles d'un point de vue plus subtil, au niveau notamment des réseaux telluriques, pour se rendre compte qu'il y a bien autre chose que la façade catholique.
Alors, vous pouvez vous faire une opinion en lisant les ouvrages de l'une et de l'autre. Là, c'est ça qui est intéressant. Fini. Question.
J'ai mis au jour en 2005, devant la Place des Éparts à Chartres, un ensemble liturgique dédié aux divinités du cosmos, avec un objet qui n'était pas plus grand que ça, même un peu plus petit, 23 cm de haut, en terre cuite, sur lequel il y avait une prière magique aux divinités du cosmos, qui demandait à ce qu'on apporte tous les bienfaits à quelqu'un dont le nom était Caius Julius Sedatus. Et ce texte était écrit en latin, avec toute la panoplie du magicien qui l'accompagnait. Et pour rappeler ce que disait Pierre Dubois tout à l'heure, l'un des textes de l'époque du 1er siècle de notre ère, parce que sur ce de brûlant sang, qu'on appelle un turibulum, étaient inscrits des formules magiques à deux syllabes, achar, bru, bros, cos, cost, na, ha, ha, etc. Le texte latin de l'époque qui parlait des pratiques magiques héritées des techniques, des pratiques gréco-égyptiennes, disait si les hommes qui utilisent ces pratiques magiques, ces mots magiques, ne comprennent pas les mots, les divinités du cosmos, eux, les comprennent. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Donc à Chartres, il y a cet objet magique avec toute la panoplie du magicien. C'est unique au monde et c'est une prière bénéfique. Magique. Quand je l'ai présenté à Rome dans un colloque sur les rites magiques en 2009, où j'avais été invité, tous mes collègues archéologues sont tombés des nues. Ils m'ont dit, nous, on travaille sur des objets qui viennent de collections anciennes, qui ont été trouvés dans des musées, au temple de Delphes, etc. On a l'objet, on ne sait pas dans quel contexte. Toi, tu as tout, tu as tous les objets. On a des bouteilles, on a les lampes à huile, on a les os qui ont été brûlés avec. On a tout ça. Et ça, c'est découvert en 2009 à Chartres.
Il est où cet objet?
Il est dans les collections du service archéologique de la ville de Chartres.
J'aurais deux questions. Comment entrer en contact avec les fées? Et donc, comment découvrir si on en a chez soi, dans son jardin, éventuellement? Et la deuxième question, est-ce qu'il y a des fées qui se réincarnent en humain? Et comment, même si vous ressemblez à une fée? J'aimerais savoir ça.
Alors, merci. Pour la première question, c'est très simple. Pour cela, il suffit d'arriver à l'orée d'un lieu de nature, que ce soit un jardin, une forêt, etc., et de faire la demande. Tant que la demande est faite avec le cœur, c'est-à-dire de manière sincère, elle est entendue. Donc, venir aussi avec quelques offrandes, donc des petites pierres, des objets avec de bonnes énergies, pourquoi pas des huiles essentielles, des élixirs, des figurines. Parce que avant d'obtenir quelque chose, on commence par donner. Puis de toute façon, quand on va chez quelqu'un, on vient toujours avec une bonne bouteille, un dessert, on vient jamais les mains vides, n'est-ce pas ? Là, c'est la même chose. Donc on vient toujours avec des offrandes. On montre patte blanche. Et puis on demande l'autorisation aussi d'entrer dans les territoires sacrés. Donc une fois qu'on est passé par ces différentes étapes qui montrent que nous sommes respectueux, eh bien, peut-être, avec un peu de chance, et généralement on est entendu parce que c'est pas tous les jours que des humains ont cette démarche, et ça c'est aussi très apprécié, et bien une fée va se glisser sur notre chemin, nous allons sentir quelque chose, peut-être le cœur battre, J'aime à dire que nous avons une sorte de radio, je vais la faire courte, hein. Une sorte de radio intérieure, comme quoi la nature a pensé à tout. C'est un petit peu comme les vieilles radios, vous savez, avec le curseur qui se balade et le vieux bouton, le bouton qu'on tourne. Donc nous avons les fréquences les plus basses en bas de notre corps et progressivement nous avons une montée en fréquence avec les fréquences les plus hautes au niveau de la tête, d'accord ? Donc chaque espace de fréquence correspond, si l'on peut dire, à une radio, et on pourrait dire une radio d'esprit de la nature, puisque notre corps, quand il rencontre un esprit de la nature, se met en résonance avec lui. Et donc une partie de ce corps-là va commencer à vibrer, nous allons avoir des sensations. Exemple tout simple, quand nous sommes avec des lutins, comme par hasard, sensation de joie. S'appétit, vitalité, joie, pouf, là, tout va bien. C'est le plexus solaire là, qui s'ouvre. Et en effet, la fréquence des lutins est en résonance avec notre plexus solaire. Pour l'effet, ce sera le cœur. Donc quand on sent pouf, le cœur qui s'ouvre, ah, il y a peut-être des faits dans le coin. Ça peut être un bon moyen. Mais surtout, demander.
Est-ce que c'est plutôt dans la nature, plutôt dans les forêts ou...
Alors, il y en a alors, ça dépend quel type de fées. Parce qu'il y a des fées, des grandes fées, des fées en leur royaume, des fées des arbres. Alors, fées des arbres, ce n'est pas très compliqué, elles sont sur les cimes des arbres. Fées des fleurs, elles sont près des fleurs. Et donc là, ce sont des petits êtres qui vont aider au bon fonctionnement du végétal. Et puis, il y a des fées qui vivent sur un plan parallèle, de manière très organisée, un peu comme sous une forme de communauté. Et là, elles ont un autre rôle au sein de la nature. Donc, le mot fée est aussi un mot générique qui va regrouper beaucoup d'êtres. Donc, à vous aussi de voir vers quel type de fée vous avez envie d'aller, sachant qu'en effet, elles sont là et qu'il suffit de demander avec la sincérité. Alors après, par rapport à l'histoire de la réincarnation et s'il est possible d'avoir été esprit de la nature et notamment fée dans une autre vie, oui, tout à fait. Alors, c'est très pratique parce que de l'autre côté, ils nous reconnaissent tout de suite. C'est comme si cette vie antérieure avait laissé une empreinte dans notre corps énergétique, qui est tout de suite perçu par les esprits de la nature. Ce qui fait que les portes s'ouvrent beaucoup plus rapidement. On arrive, nous sommes reconnus, les portes s'ouvrent. Nous sommes tout de suite les bienvenus. C'est la famille.
Avec le sapin.
Alors, quand j'entends sapin de Noël vivant, en pot coupé. S'il est coupé, vous avez un esprit d'arbre qui est en train d'agoniser, de mourir dans votre salon. Voilà, donc la meilleure chose à faire, c'est d'aider cet esprit à repartir vers sa source pour le libérer et ne pas le laisser agoniser inutilement dans notre salon. Mais pourquoi acheter des arbres ? Moi, je suis grenobloise, je vis en montagne et je peux vous dire que c'est une horreur, ces pans de montagne dévastés pour faire du sapin de Noël qui vont passer à la poubelle au bout de 3 jours. Mais il faut arrêter avec ça, c'est ridicule.
Il a fait de la salade. Quand on mange une salade, elle meurt aussi.
Alors, mais tout à fait, on peut remercier la terre pour cette salade et inviter ce qui reste à rejoindre le divin, la source. Mais alors, ce qui est aussi possible de faire et qui marche très très bien, et là, il y a eu des tests qui ont été faits sur le terrain, donc ça c'est garanti, c'est lorsqu'on va cueillir une salade dans notre jardin. C'est pareil pour les carottes, parce que je suis végétarienne et le coup de la carotte qui crie, on me l'a fait, mais alors je ne vous raconte pas de fois. Avant de saisir, avant de cueillir, eh bien, tout simplement, on demande à l'esprit de sortir du végétal, que ce soit une salade, une carotte, ce que vous voulez. Comment faire ? On va capter avec notre main, chacun ressent à sa façon, picotis, chaud, froid, résistance, certitude que c'est là, une paroi énergétique du corps vibratoire du végétal. Okay, donc on met la main dessus. Donc tant qu'on sent quelque chose, c'est que l'esprit est là. Quand l'esprit sort du végétal, il y a une impression de vide. L'esprit n'est plus là, c'est du vide. Et une fois qu'il y a ce vide, c'est bon, on peut couper. Donc avant de couper, hop, on met la main dessus, on explique, je vais faire un bon repas, hop, j'ai besoin de cette salade. L'esprit s'en va, se met de côté, on coupe, on retire. Et ce qui est génial, c'est que le fait de faire ça fait que l'esprit va se mettre de côté et lorsque nous allons replanter un plant de salade ou une graine de salade, l'esprit va pouvoir l'habiter à nouveau. Et ainsi, on reste dans un cycle vertueux et sacré. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde.
Voilà, donc je voudrais rajouter quelques petites choses. C'est que on est dans le légendaire. La légende, c'est toujours ce qui vient de la vérité et qui est transposé par l'imaginaire. Donc, en fin de compte, quand on parle des fées, des lutins, etc., tous les esprits de la nature sont des êtres qui vivent sur un autre plan. sont des êtres qui vivent sur le plan de l'astral. Il faut lire des livres très intéressants d'Edouard Brazet ou de Peter Tompkins, etc. Et alors, tout ce qu'on raconte sur les faits, tous les contes, mais c'est très bien, ça c'est le côté qui nous rassure, parce que justement, ça a ce côté enfantin, on dit que ce ne sont jamais que des contes, mais il y a des choses très importantes qui existent. Et la religion, les religions ont quand même éradiqué toutes les croyances qu'on dit païennes, mais qui étaient les grandes croyances qui datent depuis la nuit des temps, qui étaient des croyances qui étaient notées sur l'observation de la nature, sur justement les rapports qu'on avait avec tous ces êtres de qui on était proche et qu'on a complètement voulu éradiquer en implantant les cathédrales, les églises sur les lieux de culte antiques. Donc tout ça, on l'a chassé. Alors maintenant, on a l'imagerie qui est très intéressante, hein, les contes de fées, moi j'adore ça, c'est très intéressant, mais il faut se rendre compte que ce sont sur des choses réelles qu'on a voulu occulter, qu'on a voulu complètement mettre de côté parce que ça ne correspondait plus aux croyances qu'on voulait inculquer.
Voilà. Merci. Alors j'aimerais juste rajouter quelque chose parce que nous, dans
le
monde occidental...
Moi aussi, je voudrais rajouter quelque chose parce que là, ah oui. Y a des choses que je ne peux plus. Hein. Pardon. Pardon. C'est-à-dire que... oui, fini. Puis bah, moi, là,
Oui, c'est juste pour dire que nous, dans notre monde occidental, nous avons une idée comme ça que nous sommes un peu les seuls au monde. Il suffit de voyager pour nous rendre compte que le reste de la planète est plutôt dans une tradition animiste et que la relation à l'invisible, notamment aux esprits de la nature, est totalement naturelle et toujours vivante aujourd'hui.
Exactement, quand on s'intéresse un petit peu à tout ce qui est philosophie orientale, tout ça, c'est hyper connu. Je veux dire, il n'y a qu'en Occident qu'on nie tout ça.
Non, alors
voilà pour cette partie-là, et puis après on va se séparer.
Moi, je voudrais juste dire
on va faire l'autre versant avec Marie-Charlotte.
Une toute petite chose. Je ne reviens pas sur les énergies, etc. Ce n'est pas mon domaine de compétence et je ne me permettrai pas d'intervenir là-dessus, qu'il y ait des énergies dans la nature, etc. Il y en a forcément. Hein, les physiciens nous le disent, qu'il y a des énergies dans la nature. Il y a des ions, il y a des... Enfin bon, voilà. Que ces énergies aient une conscience, pourquoi pas? Là encore, je ne suis pas dans mon domaine de compétence. Après, je suppose qu'il y a ici des historiens... un archéologue, etc. Il y a quand même une histoire. Il y a quand même une histoire qui existe, qu'on connaît, sur l'histoire des cultes dans l'Antiquité. Donc on sait très bien que tous ces personnages dont on va se servir pour personnifier, parce qu'il faut les personnifier, une énergie ou autre chose, ce sont des avatars de divinité. On sait comment tout ça a évolué, on sait comment tout ça vient. C'est pas un hasard si les fées dansent, les nymphes dansent. C'est pas un hasard si les fées filent, c'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'on retrouve très exactement dans les avatars de fées les éléments qui accompagnaient les déesses de la mythologie gréco-romaine et vraisemblablement de la mythologie gauloise. Je ne dis pas celte, parce qu'on ne sait pas, c'est un rassemblement celte. Mais ici, en tout cas, gauloise, c'est déjà un rassemblement suffisant pour la France. Donc, on le sait, tout ça. Donc, on ne peut pas dire, c'est des savoirs oubliés. Non, on sait d'où ça vient historiquement. Après... Il y a un autre domaine qui est celui de l'ésotérisme, etc., où on peut effectivement dire un certain nombre de choses et dire c'est les fées, c'est les lutins, c'est machin, c'est les gnomes, c'est tout ce qu'on veut. Mais c'est de la construction. C'est comme au Moyen-Âge quand Paracelse, qui n'a pas d'autre façon de décrire les esprits, va dire eh bien, les esprits de l'eau, ce sont des ondines, les esprits de l'air, ce sont des sylphes, les esprits de... Voilà, il choisit ça. Mais Paracelse, en l'an 2000, il aurait appelé ça autrement, bien entendu. Donc,
c'est exactement
voilà.
Ce que je dis.
Voilà.
Attendez, excusez-moi, mais la grande phrase de Paracelse, c'est tout est dans la dose, voilà. Et je crois que nous avons notre dose. Donc, merci, parce qu'on peut y passer la nuit, hein, c'est très intéressant, mais il est 6h30. Merci à vous tous, et tant mieux, le débat est ouvert, on peut continuer à en parler entre nous, c'est très bien, il vaut mieux s'arrêter sur un désir que sur un ras-le-bol. Oui.